Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice, et voici un des épisodes de ma toute première saison, à l'origine sous forme d'interview audio pour mon blog futurchienguide.fr, avant de devenir, sans le savoir, les premiers épisodes de cette aventure de podcast Futur Chien Guide. D'ailleurs, retrouvez dès maintenant plein de photos de cet épisode dans mon article dédié sur futurchienguide.fr. Alors, bonne écoute! Bonjour Marie, merci de me rejoindre pour cette première rencontre pour le blog Futur Chien Guide. On se connaît déjà entre nous, mais justement, je voulais un peu que tu te présentes pour ceux qui nous écoutent.
Alors, d'abord, je suis très très contente d'être la première. Je voudrais dire que je me la pète un petit peu quand même.
Avec plaisir.
Alors moi, je m'appelle Marie, j'ai 40 ans, je suis graphiste indépendante, donc je travaille à mon compte.
D'accord. Tu fais quoi comme type de graphisme ?
Alors, j'ai commencé par faire beaucoup de print. Attends, je te parle, mais il y a un chien qui essaye de passer sous la table en même temps. Ça va aller ? Allez. Donc, je fais beaucoup de print, je fais du web, mais pas des sites web. Je fais des supports pour le web, je fais des infographies, de la data visualisation. Donc, en fait, c'est montrer des données, expliquer ce que les données disent et le rendre sympa, attrayant, facile d'accès. Voilà, donc je suis quelqu'un qui fait plein de trucs très, très visuels. Donc, je trouve ça assez drôle qu'à côté de ça, je suis partie être bénévole pour des chiens guides d'aveugles ou de déficients visuels. En fait, à la base, j'ai pas du tout fait ça pour ça, j'ai fait ça pour les chiens.
Ouais, et du coup, tu fais ça à Paris, c'est ça ?
Je fais ça à Paris 11e.
D'accord.
Bon, après, je les emmène partout, mais on est basé à Paris 11e, qui est quand même hyper intéressant, puisque du coup, les chiens sont vraiment en ville, quoi. On est vraiment sur un boulevard, donc il y a vraiment la vie, le bruit de la ville, il y a de la sociabilisation, parce qu'il y a plein de chiens dans le quartier, donc on a trouvé un endroit pour aller jouer. Puis je suis dans un espace de coworking, du coup, j'ai l'autorisation d'emmener les chiens à l'espace de coworking. Donc voilà, donc très vite arrive ce qu'il arrive toujours, c'est que si tu viens et que t'as pas de chien, les gens disent « Ah, t'es toute seule !»
Et du coup, justement, ton lien avec les chiens guides d'aveugles, est-ce que tu peux nous raconter comment et quand ils sont rentrés dans ta vie ? Est-ce que tu étais déjà à Paris ou pas ? Comment ça s'est passé ?
Alors en fait, moi j'ai toujours voulu avoir un chien. J'ai jamais été obsédée d'avoir des enfants, mais par contre, il y avait une évidence, c'est que j'aurais 1, 2, 3, 18 chiens dans ma vie.
D'accord.
En fait, là j'en ai vu 21 quand même depuis 2012. C'est celle qui est là en train d'essayer de passer sous la table, c'est ma 21e. En fait, quand je me suis installée en freelance, c'était en 2010, et je me suis dit, c'est vraiment le moment d'avoir un chien, puisque maintenant je travaille de chez moi. Ça va être super. Et puis en fait, mon rêve, c'était un bulldog anglais, donc juste rien à voir. En fait, je me suis dit, peut-être pas une bonne idée de commencer direct par une race qui est un peu difficile. Évidemment, je me suis renseignée, j'ai acheté quelques livres, j'ai regardé un peu comment ça pouvait se faire. Puis j'avais ma mère derrière qui disait, mais tu te rends pas compte, un chien à Paris, c'est difficile, il va être malheureux, blablabla. Donc elle me faisait peur, bien sûr.
Ouais.
Et puis en fait, un week-end, je prends le train pour aller chez elle et je croise sur le quai de la gare du Nord un gars qui a un élève chien guide, en fait. Donc un petit golden roux trop mignon qui me lèche la main. Et donc en plus, j'étais vraiment surprise parce que je l'avais pas vu. Et donc j'étais, ah non, un petit chien qui me lèche la main, machin. Et donc je fais ce que tout le monde nous fait maintenant quand on a un chien, c'est, ah mais alors, comment ça marche pour avoir un élève chien guide, blablabla, blablabla. Et puis le gars me dit, ils ont un site, tout ça, donc je vais lire le site en entier. En fait, c'était l'ancien site, vraiment HTML, tout rétro. Et donc en fait, j'ai épluché tout le site et je suis descendue du train, j'ai dit à ma mère, je vais être famille d'accueil pour chien guide. Elle m'a dit, voilà autre chose.
Et du coup, tu connaissais pas du tout les chiens guides avant, ni le rôle de famille d'accueil ?
Non, je savais rien du tout. En fait, si j'avais su que c'était possible avant, mais je l'aurais fait quand j'avais 20 ans, en fait. J'ai trouvé ça trop génial. Je me suis dit, waouh, les gens se disent que t'es une adulte responsable et on va te filer un chien et tu vas participer à son éducation. Ça va être trop cool. Et donc voilà, donc j'ai envoyé un mail qui est resté sans réponse au début parce que j'avais dû passer dans des spams ou je sais plus quoi. Et en fait, c'est marrant parce que c'était quelque part en septembre.
Ouais.
Exprès pas repris le théâtre parce que j'avais dit aux gens non, je vais avoir un chien, je reprends pas le théâtre, je peux pas être partout. Bon, c'était un peu une excuse, je crois que j'avais envie de faire un break sur le théâtre. Et en fait, finalement, j'ai eu un chien en mars de l'année suivante.
6 mois après, à peu près.
Ouais, ça a mis un peu de temps parce que j'ai pas trop relancé, j'osais pas. Enfin, tu sais, il y a un espèce de truc genre, oh, peut-être que je suis pas vraiment digne d'avoir un chien, ils veulent pas de moi. Que j'étais arrivée avec mon petit mail, oui, bonjour, je suis très motivée. Alors qu'en fait, pas du tout, c'était mon mail qui s'était perdu en route. Et donc, l'éducatrice qui s'occupait des familles d'accueil, qui s'appelait Corinne à l'époque, me dit, non, mais nous, on est très motivés pour avoir des nouvelles familles d'accueil, il faut qu'on se rencontre, blablabla. Et donc, je fais la réunion d'information, 2 heures.
Pour ceux qui nous écoutent, je ne l'ai pas encore trop bien expliqué. C'est la réunion qui précède avant d'avoir un chiot en fait, en famille d'accueil. C'est une réunion d'information qui n'engage à rien, vraiment. Elle permet justement de découvrir vraiment tout l'engagement qu'on aura pendant un an en tant que famille d'accueil. Et donc, c'est cette réunion-là, moi, j'en parlerai une autre fois, mais je l'ai faite 2 fois.
Ah ouais ?
Oui. Génial. En 2013, ça remonte, hein. Et je l'ai refaite quand je me suis remotivée, puisque les conditions avaient beaucoup changé, en 2016.
Ouais.
Et donc, c'est cette réunion-là qui t'a permis de voir que c'était tout à fait cohérent avec ce que tu recherchais ?
Ouais, alors déjà, j'ai adoré parce qu'ils ont dit « aucune question n'est stupide ». Donc, on a vraiment posé toutes les questions qu'on pouvait, genre « j'habite dans un 2 pièces, est-ce que c'est pas trop petit ?» Mais non, il y avait plein de trucs comme ça. Et donc, ils ont bien insisté sur le fait que tu dois avoir le chien avec toi tout le temps. Donc, moi, j'étais là, mais jackpot, puisque bah voilà, j'étais indé, donc c'était moi qui décidais.
Et tu travaillais de la maison, surtout ?
Ouais, je travaillais chez moi.
Pas la problématique de savoir s'il fallait que tu demandes au travail ou pas ?
Voilà, non, après, bon, je savais que j'allais chez des clients de temps en temps, donc il fallait que je demande, mais j'en avais un peu parlé, j'avais un peu, tu vois, tâté le terrain, et puis, enfin, j'étais globalement chaud, quoi.
D'accord.
Et donc, en plus, la fois où moi j'ai fait la réunion, ils avaient des bébés de 3 mois, enfin, tu vois, un truc dans le genre. Donc, ben, on était tous dingos, parce qu'à la fin de la réunion, ils nous ont dit, vous voulez voir les bébés ? On était là, mais oui, on veut les mettre dans nos sacs, on veut partir avec.
Directement. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, du coup.
Malheureusement, parce que j'en aurais pris 10. Ils étaient vraiment trop mignons, et encore des petits golden, donc vraiment, qui sont trop choux, tout doux, tout ça. J'ai envoyé plein de photos à mon copain, parce que, donc, c'est vraiment un projet que j'avais moi toute seule, mais forcément bah, Sylvain fait partie de ma vie, donc il allait être pris dedans. Donc je lui ai envoyé plein de photos des petits chiens en disant « Oh, regarde comme ils sont mignons, machin », pour le motiver à dire « Oui, oui, c'est une bonne idée, vas-y ». Et donc voilà, et donc on dit « Bah, enfin, après tu remplis quand même ton petit... » Enfin, moi, à l'époque, en tout cas, je remplissais juste un dossier papier qui expliquait, voilà, ma situation.
C'est peut-être un dossier numérique, hein, moi, la première fois que je l'ai fait.
Remplir avec un stylo bic.
Voilà, maintenant, moi, c'est un document Word, mais en effet, c'est pas mal d'informations sur comment tu vis, qui va être plus ou moins en charge du chiot, qui va suivre le chiot, quand est-ce que tu es disponible aussi pour aller à l'école, pour les stages, pour plein d'autres choses. Et donc ça, c'était en mois de mars ?
C'était, non, parce que j'ai eu... Ah bah si, remarque, ça devait être ça, parce que j'ai eu Elias au mois de juin 2012.
D'accord, donc la même année que la réunion.
Ouais. Donc ça devait être, en mars 2012, un truc comme ça, ouais. Donc voilà, donc en juin, avant juin d'ailleurs, ils me disent, bon bah voilà, tu vas accueillir un chiot. Donc j'avais demandé si je pouvais avoir un mâle plus tôt, ils m'avaient dit pas de soucis.
Qu'est-ce que tu préférais chez les mâles ?
Bah en fait, on n'avait eu que des femelles quand j'avais grandi, on n'avait eu que des chiennes, et j'avais envie d'avoir un mâle pour changer, et puis... ma mère avait à l'époque une femelle berger allemand, mon frère avait aussi 2 femelles berger australien, et donc je sais pas, peut-être je voulais faire une différence. Franchement, j'en sais rien du tout. Et donc voilà, donc j'ai un petit mâle golden retriever qui s'appelle Elias, que j'ai eu pendant pile 1 an. Ça c'est vraiment génial, c'est que j'ai dû l'avoir le 18 juin 2012 et ensuite il est rentré à l'école le 17 juin 2013.
Donc pour ces 6 mois d'éducation, après le rôle de famille d'accueil.
Voilà, donc on a fait 1 an de famille d'accueil avec Elias. Bah, c'était génial. Moi j'étais trop contente de ramasser du caca dans le caniveau, tu vois. Il pouvait me réveiller la nuit s'il voulait, je m'en fichais parce que j'avais mon pipou, quoi. C'était ouf. Et puis t'as tout, quoi. Enfin, je veux dire, t'as les gens qui te disent « Ah, mais c'est pas vraiment ton chien ». Mais non, c'est pas vraiment mon chien, mais par contre, c'est moi qui en ai la responsabilité là pour les 24 prochaines heures, pour les 12 prochains mois. Donc, si, c'est mon chien. Enfin, j'ai jamais flippé en fait, tu sais, parce que la grosse question qui te pose dans la rue en sachant même pas comment tu t'appelles, ni si peut-être t'as quelque part où aller, c'est mais c'est pas trop difficile quand vous devez les rendre. Avec un ton un peu dramatique, hein, bien sûr, j'insiste pas du tout.
Exactement.
Et en fait, j'étais pas du tout stressée par ça en fait. Je l'ai pas du tout mal vécu. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vécu comme le fait de rendre le chien. Pour moi, c'était vraiment qu'il rentrait à l'école. Donc, c'était vraiment ça le truc important, quoi. Donc, les 4 premiers mois, c'était mon ombre. C'était vraiment mon chien. Bah, je l'emmenais partout. Puis, j'allais bosser dans des espaces de coworking de temps en temps avec des copains et tout ça. Donc, il venait. C'était toujours la star parce qu'il était mignon. Enfin, j'ai vraiment eu du bol. J'ai eu un premier chien qui a été vraiment super easy, vraiment sympa. Il était facile, quoi. Puis bon, moi, j'avais lu des bouquins, je m'intéressais, je demandais tout le temps des trucs à Corinne, de savoir comment on lui apprend ceci, comment on lui apprend cela. Enfin, tu vois, je me souviens le premier truc quand on me l'a livré.
Ouais.
on me l'a livré, il était tombé, il s'était fait une grosse bosse, donc il lui avait tondu le haut de la tête,
ouais,
pour être sûr que tout allait bien, pour voir, puis pour enlever un peu de liquide. Il est arrivé avec sa tête, avec son truc. C'était hyper dur de se concentrer. À l'époque, c'était Valérie qui me l'avait amené, elle me parlait, j'arrivais pas, elle me disait « Écoutez-moi, écoutez-moi, je sais que c'est dur, mais écoutez-moi, on en a pour une heure », pour me dire, voilà, tous les trucs étaient attendus, et en gros... J'ai adoré le côté un peu mission, quoi, c'est-à-dire bah, les 15 premiers jours, l'important c'est la propreté, de toute façon même pour vous, c'est ce que vous voulez lui apprendre. Et donc ils m'ont vraiment appris au fur et à mesure à lui apprendre tout, quoi. Moi, toutes ces choses que j'avais jamais fait, parce qu'on avait des chiens qui vivaient dans des jardins, donc on n'était pas en train de lui apprendre à faire ses besoins en caniveau.
Oui, parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont spécifiques, et je développerai plus tard tout ce qui est les mots... et tout ce qu'on appelle, alors moi j'appelle ça plus les mots que les ordres, parce qu'en soi c'est des mots auxquels ils répondent, pas forcément des ordres, puisqu'ils doivent un peu réfléchir parfois. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui, avec le recul, quand tu recroises des chiens qui ne sont pas élèves chiens guides, sont quand même des choses qui pourraient être intéressantes. Ce qui est le rituel de la gamelle, où on demande au chien de s'asseoir et d'attendre avant que la gamelle soit posée. Même ça avec un chien de compagnie. J'ai des amis qui du coup m'ont demandé les trucs et astuces pour pouvoir apprendre ce genre de choses pour leur chien de compagnie, pour avoir voilà, une petite tranquillité lors de donner les gamelles.
Non mais il y a des trucs, moi je croise plein de gens forcément, donc dans Paris t'as toujours des gens avec des chiens, et l'autre jour j'ai croisé une fille, elle appelle son chien parce que c'est une toute petite boule de poil qui venait vers nous. Et puis elle disait Oli, 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 Oli. Et bah Oli, elle s'en fout. Elle dit bah c'est bon, je sais ce que c'est mon prénom, quoi. Pour moi, c'est vraiment le truc de base que j'explique toujours. Alors le fait que le chien ait le gilet bleu, ça me donne une espèce d'autorité de chez ce que je fais, et les gens ils acceptent mon conseil. Bon, la simple idée de toujours suivre le prénom, mais ensuite derrière tu lui dis ce que t'attends. Viens au pied, donne-moi la balle, ce que tu veux. Mais et ça c'est Enfin, ça, c'est un principe de base pour n'importe quel chien.
Oui, après, l'avantage sur l'élève chien guide, c'est que du coup, on est vachement coaché par l'école pour tout ça. Il y a des paliers, on va pas apprendre à trouver une poubelle à un chiot qui a 3 mois. L'objectif, c'est déjà qu'il fasse ses besoins dans le caniveau. Et progressivement, on ajoute, on n'oublie pas les premiers apprentissages, et on en rajoute au fur et à mesure que le chien... aussi est capable d'en apprendre, parce qu'à 3 mois...
Moi, j'adore le petit carnet avec les progrès, l'attraction pour les pigeons. Alors bon, bah ça y est, Pipou, arrête de courir après les pigeons, enfin, reniflage, enfin, tous ces trucs, quoi. Tu vois tous les progrès qu'ils font au fur et à mesure. Enfin, t'es tout le temps ultra fier, en fait, parce que t'es vraiment une team, en fait, avec ton chien, quoi. Et c'est marrant, moi, j'ai... Donc, Elia, je l'ai eu 4 mois non-stop avec moi. On est partis en vacances, enfin, on faisait tout avec, vraiment tout. Au mois de septembre qui a suivi, on a un mariage, et donc j'allais pas emmener mon chiot au mariage. Enfin, en plus c'était sur une péniche, enfin c'était un peu compliqué. Et donc un copain me garde, qui travaillait avec moi régulièrement, qui le voyait, me dit bah je te le garde pour le week-end. Le vendredi, je laisse Elias au coworking avec donc Vincent. Et moi, je m'en vais prendre le bus. Et ça faisait, franchement, ça faisait 4 mois que je vivais en permanence avec un chien, mais basque. Et là, j'étais à l'arrêt de bus et j'ai envoyé un texto à Vincent. Je lui dis, j'ai l'impression d'être à poil.
T'étais seule. T'avais pas les sacs à crottes, le gilet, la laisse.
T'étais ultra bizarre, quoi. Après, tu t'habitues, bien sûr, mais genre, première fois qu'on le laisse tout seul, tout ça. Comme après, il y a les stages à l'école qui arrivent rapidement, parce que c'est vers 7 mois, 8 mois, je sais plus. Là, c'est cool, parce que finalement, quand le chien s'en va une semaine à l'école, bah, tu apprends aussi à vivre tout seul, à vivre dangereusement, à traverser hors des passages piétons. Et donc, c'était cool. C'était cool d'être avec, et c'était cool d'être sans, voilà, on a vachement bossé. On a eu en avril de l'année suivante, Corinne, elle nous a dit bah là c'est un peu chaud parce qu'il a des peurs sur les bruits, tout ça. Et donc on a vachement bossé d'aller sur les marchés. En fait, en 15 jours, il a fait 8 marchés, je crois, un truc comme ça. Quand il est allé en stage après coup avec Corinne, justement, elle m'a dit écoute, on l'a pas reconnu, super à l'aise, tous les bruits vraiment. Moi, j'allais au marché en bas de chez moi et je passais une demi-heure assise au milieu des bruits des gens. En plus, t'as vraiment tous les étals où il y a du bruit, mais en plus il y avait des gens qui faisaient de la musique, il y a des gens qui essaient un peu d'haranguer des foules pour vendre des trucs, je sais pas quoi. Donc t'es vraiment au milieu de ça. Et puis bah comme il voyait que moi j'étais cool, bah il attendait, et puis c'est vraiment il s'est habitué. Donc tu deviens créatif quand même.
Je trouve aussi, moi une anecdote sur la créativité, c'est quand j'ai eu un chien en relais où on m'a dit si tu peux lui faire travailler des escaliers transparents, c'est bien.
Il faut les trouver.
Vous m'imaginez, à trouver des escaliers transparents. J'étais vers le quartier du Louvre Rivoli. J'ai tenté du coup le carrousel du Louvre, qui est le centre commercial qui est à dessous, à proximité du Louvre. Et alors, chercher des escaliers transparents, je crois que c'est la chose que dont je me souviens le plus. J'ai trouvé la pyramide transparente à l'envers, j'ai trouvé plein de choses, mais vraiment, et sans vouloir faire de pub, dans l'Apple Store, il y avait un escalier transparent. Je n'ai aucun matériel Apple dans ma vie, mais je suis rentrée pour la première fois de ma vie dans un Apple Store.
C'est vrai, je me souviens de l'Apple Store de Rivoli.
Et donc, je suis montée et redescendue 15 000 fois cet escalier de manière tout à fait, comme tu le dis, classique et détendue, ce qui fait que le loulou qui avait des peurs à ce moment-là a dit au bout de la 15e fois, c'est bon, on a compris, on le connaît cet escalier. Ouais. Alors voilà, c'est vrai qu'on devient inventif et très imaginatif sur tous ces points-là. Et du coup, à la fin, Elias, aujourd'hui, est-ce que tu as des nouvelles ?
Ouais, alors, donc Elias, il est rentré à l'école en juin.
Ouais.
En septembre, il y a eu la JPO. Non, c'est la fête du chien guide, mais à l'époque, en 2013, ça s'appelait encore la journée porte ouverte. Et donc, Dale était en éduc. L'éduc était hyper content, tout ça. Et puis en décembre, Corinne m'appelle et me dit « on va devoir réformer Elias. On a fait un test avec des enfants, il a peur. » Et c'est vrai que moi, ça c'est un truc où... Alors bon, déjà, je n'avais pas pensé à le travailler, mais en plus, je n'avais pas du tout d'enfants dans mon entourage. Et elle m'a dit il y a un enfant qui est venu près de lui, il a grogné. Et elle m'a dit « Le problème, c'est que on ne peut pas garantir le risque zéro. » Donc pour ça, et puis... Je pense qu'il y avait une autre aussi raison. Enfin, ils se disent, ça fait quand même beaucoup de choses, donc tant pis, on réforme. Donc là, petite soirée un peu frénétique à faire des mathématiques pour savoir combien ça me coûterait d'adopter mon chien. Et puis en fait, je me suis dit, non, c'est pas ça la solution. Et c'était pas tant un problème de coût que le fait que j'allais plus pouvoir l'emmener partout avec moi. Il allait pas comprendre, je pense, que tout à coup, j'allais dans le métro, mais sans lui, parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment autorisé de prendre son chien dans le métro.
Okay.
Du coup, je savais que justement, au coworking où on allait, de temps en temps, là, il y avait une fille qui avait hyper craqué. Cette fille avait dit, écoute, si jamais il est réformé, moi ça m'intéresse de l'adopter. J'avais dit, non, il sera pas réformé, on va bosser, machin.
Oui, parce que quand ils sont réformés, du coup, là, ce qui se passe, c'est que ils sont proposés à l'adoption en priorité à la famille d'accueil quand même, qu'il l'a eu. Et donc, ce que tu disais, la différence, c'est que la conséquence, c'est pas juste que ça devient ton chien, mais il perd aussi le statut d'élève chien guide, puisqu'il est plus élève chien guide. Les conséquences, c'est ce que tu dis, c'est le métro et partout où la loi les autorise en tant qu'élèves chien guide pour apprendre leur métier à aller, quand tu l'adoptes, il faut aussi concevoir et réorganiser.
Même si je continue à bosser de chez moi, ça veut dire que, tu vois, je pouvais plus... Je le redis, à l'époque, je dis ça comme si c'était vraiment 1902, mais c'était il y a 7 ans, mais il n'y avait pas de ticket de chien, il n'y avait pas d'autorisation. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu peux emmener ton Golden Retriever tant qu'il a une muselière dans le train, dans le métro, pour aller à Vincennes si t'as envie.
C'était que pour les tout petits chiens.
Voilà. Je me voyais pas trop braver l'interdit parce que je bougeais quand même régulièrement, ça me plaisait pas. Et puis en fait, j'avais vraiment bien aimé l'expérience d'éducation. Et ce qui s'était passé en plus, c'est que septembre de 2013 et décembre où elle m'appelle, moi j'avais déjà fait 2 relais.
Alors justement, t'es devenue famille relais entre-temps, c'est ça ?
Ouais, je voulais pas reprendre, je vais employer un discours de maman qui a des enfants, je voulais pas rester dans les couches, je voulais pas reprendre à zéro.
D'accord.
Donc je lui avais dit, je vais pas reprendre un chien tout de suite pour un an, parce que c'est vachement de taf et d'énergie, j'avais dit non, je veux bien faire un peu de relais entre-temps. Et donc bien sûr, mon premier relais, c'était un bébé labrador. Donc je reprends les couches, deux semaines. J'avais eu un autre labrador pendant une semaine, 10 jours au mois de novembre. C'était pour voir, en fait, il avait des craintes, ils n'arrivaient pas à les reproduire quand il était en éduc. Donc elle m'a dit, est-ce que tu peux le prendre, tu vis ta vie et puis tu vois.
Puis tu notes.
Ouais.
Note tout, s'il a des peurs, ouais. Des choses.
Et donc c'était hyper intéressant aussi, tu vois, de trouver ces trucs.
D'avoir un peu une mission, mais plus ponctuelle sur ouais, quelques.
Et donc du coup, j'ai fait tous mes calculs et puis en fait, quand elle m'a dit, Elias s'est réformé, puis en fait, je me suis dit, non, je crois que c'est pas ça la bonne piste. Et j'ai rappelé donc Amélie et je lui ai dit, bah Elias est à l'adoption, est-ce que ça t'intéresse? Et elle me dit, écoute, je viens d'acheter une maison, je pars vivre en Bourgogne, je suis en plein déménagement, je pourrais pas le prendre avant janvier. Et je lui dis, bah c'est pas grave, je m'en occupe. Et j'ai dit à Corinne, bah non, moi je l'adopte pas, par contre j'ai quelqu'un qui est super motivé, je le prends pour Noël, machin. Et puis Amélie l'a récupéré le 3 ou 4 janvier. Alors c'était son anniversaire en plus, donc elle était hyper contente, elle avait un chien pour son anniversaire. Ça s'est hyper bien passé, lui il s'est hyper vite habitué à elle, ils sont partis vivre en Bourgogne. Elle m'envoie des photos, des vidéos tout le temps, tous les ans à son anniversaire, j'ai une petite vidéo pour voir comment va mon pipou, enfin, et il est super heureux. Et en plus Amélie a adopté un autre chien, un autre élève chien guide qui a été réformé.
Donc elle l'a adopté, aujourd'hui ils sont deux du coup.
Ouais. Alors au début Elias il l'aimait pas. Au début il était pas content de devoir partager sa maîtresse. Et puis bah maintenant c'est son chien quoi. Enfin,
ouais, c'est
Mao,
cool.
Mao, donc l'autre chien, il a fini par l'avoir à l'usure, il se collait sur lui, il essayait de jouer avec et tout. Donc au bout d'un moment Elias il a cédé quoi. Donc c'était super. Et puis moi bah du coup derrière j'ai continué. Ma carrière, hein. Ma carrière de famille relais. Alors je dis carrière parce que quand même, bah depuis 2013, du coup, j'en ai vu passer 20.
Ouais, pas mal.
certains que j'ai eu, il y en a un. Je crois que le minimum que j'ai fait, c'était 4 jours.
Ouais.
Et bah le maximum, là c'est Pansy là que j'ai là en ce moment, puisque elle est confinée avec moi. Donc on va faire 2 mois d'affilée ensemble. Mais voilà, donc c'est des périodes qui vont de 10 jours à 1 mois, et puis ils avaient vu que j'aimais bien les petites missions, donc j'ai eu idem, il fallait lui apprendre à rester tout seul, c'était un petit border collie, alors hyper affectueux, et ils m'ont dit, bah voilà, il sait pas du tout rester seul, donc il faut partir de zéro. Alors effectivement, la première semaine, il fallait, enfin je lui ai appris à rester seul dans une pièce, pendant que j'étais dans une autre pièce.
Ah oui, donc vraiment la base de la base.
Ouais, et puis tu sais, vraiment le border, quoi, qui veut vraiment tout faire pour te faire plaisir, qui pige les trucs hyper vite. Donc je lui dis, assis à ta place, ok, super, tu restes, super. Je recule, tu vois, j'allais dans la chambre, il me voyait, il restait, je revenais, super. Et alors, je lui dis, tu restes, je m'en vais dans la cuisine, je commence à compter, 1, 2, 3, 4, il est à mes pieds. Donc, on est passé du premier jour où il savait rester seul 4 secondes dans une pièce,
ouais,
à au bout d'un mois, il est resté seul 4 heures dans l'appartement. Donc, bon, là, j'étais un peu...
J'étais fière.
J'étais un peu une bosse dans ma tête. Mais non, j'étais hyper contente parce que ça s'est hyper bien passé et il a continué. J'ai eu Hogan, par exemple, lui, c'était vraiment... il est très attaché à sa maîtresse, donc il faut qu'il apprenne un peu à se détacher. Donc, elle me dit, surtout, il ne faut pas hésiter à lui faire plein de câlins, plein de bisous pour qu'il comprenne qu'il peut recevoir des câlins d'autres maîtres.
Ah, c'est intéressant.
Voilà, et après, en fait, j'ai eu Gigi. C'est à peu près dans cet ordre, mais entre Hogan et Gigi, on a eu d'autres. Mais Gixi, c'était vraiment un gros, gros coup de cœur. Alors déjà c'était une femelle, donc j'étais un peu surprise parce que je pensais que je préférais les mâles, mais en fait pas du tout, je préfère les femelles.
Après coup, après 20 chiens,
après 20 chiens, je peux le dire. Bien sûr, mon pipou est mon numéro 1 si jamais il écoute le podcast. Et Gixi, ça a été vraiment super en fait. Donc elle m'appelle, elle me dit, bah voilà, on a une petite chienne, elle est adorable, elle écoute bien, mais elle saute. Il faut vraiment qu'elle arrête de sauter parce que elle saute, la dame, elle a les bras tout griffés, donc faut que ça s'arrête. Donc je la prends en stage, et alors en plus c'est un couple qui était famille d'accueil pour chien guide depuis des années, donc ils avaient jamais fait de relais, ils ont toujours réussi à emmener les chiens en vacances avec eux.
Jamais confié leur chien, leur élève chien guide à quelqu'un d'autre.
C'est genre leur 13e, tu vois, donc ça faisait genre 13 ans, ils avaient jamais fait de relais, donc je pense qu'ils avaient un peu d'appréhension. Et puis moi je la récupère, et puis elle a cette petite frimousse, elle est rousse, enfin elle est vraiment ultra craquante et tout, et puis bah on apprend à pas sauter, donc je la fais asseoir. Je me mets au-dessus d'elle et puis je lui dis tu restes et c'est bien, et on récompense pour qu'elle comprenne au fur et à mesure qu'on saute pas et tout ça. Et ça se passe super, et je la ramène à l'école, et je lui dis, bah écoute, franchement, je la reprends quand vous voulez. Alors que j'avais jamais dit ça, enfin, ça m'était jamais venu à l'idée. Et j'ai dit, vraiment, elle revient quand elle veut, elle est trop mignonne, si vous avez besoin, je la garde à nouveau, mais vraiment quand vous voulez. Et au mois de janvier, je crois, elle m'appelle, et elle me dit, bah alors, écoute, incroyable, justement, Pascal et Claude, ils ont jamais eu besoin de relais. Mais là, ils ont vu que ça s'est super bien passé, ils sont super contents, donc ils partent une semaine au ski en février. Est-ce que tu veux la reprendre ? Et j'étais là genre « Oui !»
En fait, c'est le genre de coup de fil qu'on aime bien.
Et donc, en fait, bah, je l'ai récupéré. À partir de là, dès qu'ils avaient besoin d'un relais, ils demandaient, puis ils demandaient spécifiquement si moi, je pouvais la garder. Donc, j'étais là genre « Mais oui !»
Oui, parce qu'au final, par rapport aux chiots, des fois, l'élève chien guide, c'est bien qu'ils puissent changer aussi de famille, parce que ça permet de tester différents contextes. Toi, t'es
mais ouais.
Des fois, ils préfèrent tester bah, justement une famille avec des jeunes enfants. Du coup, ce qui est intéressant aussi dans les familles relais, c'est que t'es pas forcément la famille relais attitrée du chien, et ça, c'est parfois intéressant de le comprendre. Mais il faut aussi voir que le chien, il peut aller dans une autre famille relais pour pouvoir tester d'autres choses. Donc c'est bien parce que nous, on peut aussi avoir des chiens qui ont été dans d'autres familles relais avant.
Bah là, Pansy que j'ai eu, que j'ai là 2 mois en confinement. En fait, avant que moi je la récupère, je crois qu'en décembre, elle avait déjà fait un stage dans une autre famille relais. C'est pas pour dire, mais les filles, c'est toujours un peu des premières de la classe, moi je trouve. Hein. Bon.
Ça dépend. Et finalement, moi j'en ai connu qui sont un peu moins, un peu plus bagarreuses, un peu plus.
Ouais.
Il y a quelques belles feuillottes quand même à l'école des chiens guides. Je pense à ma petite Noli notamment.
Ah bah oui. Qu'est-ce qu'elle était mignonne.
En ce moment, du coup, t'as le même rôle que moi auprès de l'école. C'est-à-dire qu'on est famille relais toutes les deux. On a beaucoup échangé. Je t'avais posé beaucoup de questions justement en 2013, je pense.
C'était sur Instagram. Il faudrait que je remonte. Et tu m'avais posé plein de questions. Mais je pense que tu avais déjà commencé d'être famille d'accueil à l'époque.
Famille relais, sûrement. Ouais. Je crois qu'on s'est croisés pour la première fois justement à la journée porte ouverte.
Ouais.
Où tu étais madame micro, puisque tu fais ça très bien et que chaque année ils te proposent
bah
de.
Ouais.
L'animation micro.
Moi, j'avais arrêté le théâtre, mais du coup, je pouvais continuer à faire madame en représentation à l'école une fois par an. C'était cool. Bah, d'ailleurs, je le fais toujours, mais là, on est deux.
Bah, après, nous, on s'est recroisés plusieurs fois parce qu'au final, je crois qu'on a fait quelques détentes ensemble. Je suis passée te voir avant le confinement, tout juste.
Ouais, mon espace de coworking.
C'est vrai que voilà, c'est assez agréable de se rendre compte et d'imaginer, parce qu'on pourrait croire que c'est encore plus compliqué. Dans un grand open space, mais au final, toi, t'as un bureau dans l'espace de coworking, donc c'est un petit peu différent.
En septembre, quand j'ai pris mon bureau, j'avais toute une liste de questions, des questions vraiment pas intéressantes, genre, oui, comment ça se passe pour l'assurance, blablabli, blablabla, tu vois.
Ouais.
Et puis, toutes ces questions-là, et à la fin, je dis au gars, écoute, j'ai vraiment, jusqu'ici, tout va bien, c'est les réponses qu'il me fallait. Je dis, maintenant, j'ai une question, ça passe ou ça casse, est-ce que je peux venir avec un chien ?
Wow.
Et là, le mec, il me dit, mais bien sûr, ah, génial et tout. Il me dit, non, mais en plus, t'as ton propre bureau, donc j'ai mon bureau fermé. Il me dit, non, mais tu reçois qui tu veux dans ton bureau. Et bien sûr, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit juste, on veut pas que les chiens aboient. Je lui dis, bah écoute, ça tombe bien, les chiens guides, ça n'aboie pas. Après, je lui ai expliqué le principe des chiens guides. Il m'a dit, bah écoute, c'est vraiment génial, on est impatients. Et en fait, donc j'ai pris le bureau en septembre et j'ai pas fait de relais avant le mois de janvier, qui était Nancy.
D'accord.
Et alors donc là, il était au taquet, genre ah bah ça y est, enfin tu viens avec un chien. Il y a une centaine de personnes dans le coworking, donc je peux te dire que Nancy, elle a beaucoup beaucoup de fans.
Ouais.
Ça se passe hyper bien, c'est vraiment génial. Et alors, bon, ça se passe hyper bien pour te dire, même qu'elle a un jour, on était en salle de réu, on faisait une grosse réu, elle a vomi. Mais elle avait jamais, j'avais jamais eu aucun problème. Et là, elle m'a fait mais un vomito, mais un truc de dingue. Donc, du coup, tout ramassé, je suis revenue le week-end pour faire le ménage avec mon petit pchit, tu vois, ma petite brosse et tout ça. Enfin. Et ils ont été vraiment overcool, quoi. Ils m'ont dit, non, bah écoute, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent.
D'accord.
Mais non, et puis ça se passe super bien. Alors là, en confinement, bon, bah, pour elle, c'est dur, hein, parce qu'elle a plus tous ses amis à qui elle doit dire bonjour.
Ouais. Mais, parce que tu continues à y aller, parce que c'est à 300 mètres à pied de chez toi, du coup, c'est pas. Même pas.
Ouais,
300
moi, je dis à 3 cm, mais ça, c'est.
3 cm.
ouais, j'y vais l'après-midi, effectivement, il y a 4 pèlerins, parce qu'on est les quelques-uns qui ont justement les bureaux fermés. Donc, dès qu'elle voit quelqu'un, elle est juste aux anges. On va de temps en temps quand même voir mon voisin du 6e qui a 80 ans pour voir si tout va bien et tout ça. Elle l'adore. Enfin, c'est vraiment dingo. Elle se jette sur lui, elle lui fait des bisous. Panty, elle fait pas de bisous. Elle l'adore. Elle pleure, elle veut qu'il la caresse, elle veut qu'il fasse des papouilles. Enfin, donc c'est génial, quoi, parce que voilà, les gens. Les gens, d'une manière générale, avec les chiens guides, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve qu'ils ont vraiment, en général, un super bon accueil. Très bon a priori.
La majorité, oui.
Ouais. Et puis, du coup, ils veulent tous te parler ou d'une expérience ou d'autres choses. Donc, c'est cool. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment génial, en fait, de faire ça, dont je me suis rendu compte a posteriori, parce qu'à la base, je faisais ça. À la base, je faisais ça pour avoir un chien. Et ouais. Là-bas, je pensais même que après un an avec Elias, je me mettrais à chercher le bulldog anglais de mes rêves parce que j'étais capable.
Ouais, le chien de ta vie, quoi.
En fait, non. Quand Elias est rentré à l'école, ma mère m'a dit alors qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit mais non, mais moi je continue. C'est génial de faire ça. C'est hyper gratifiant d'éduquer un chien à ce niveau-là et que ça marche. C'est justement aux journées portes ouvertes, bah du coup tu rencontres plein de déficients visuels qui te racontent leur expérience et c'est super parce que tu vois que ta petite pierre apporte vraiment un changement à leur vie. Enfin moi j'ai vu une dame qui avait les larmes aux yeux quand elle nous a dit bah moi avoir un chien ça a changé ma vie. Avant j'étais toujours chez ma fille, j'étais déprimée et puis j'ai eu je sais plus comment s'appelait sa chienne et sa fille lui a dit de toute façon c'est simple on te voit plus. Je dis mais c'est pas possible que cette femme elle était déprimée un jour dans sa vie parce qu'elle était hyper joyeuse et enfin c'est génial parce que finalement pour moi c'est une manière de m'engager d'un point de vue un peu communautaire tu vois voilà et puis je trouve ça hyper drôle que bah voilà je sois dans les arts visuels et puis je m'engage pour un truc pour des gens qui justement ne voient pas forcément ce que je fais et puis bah on s'en fout de ce que je fais parce que moi ce que je fais pour eux c'est les chiens quoi enfin
oui c'est un engagement différent mais du coup ça se rejoint Et ça se complète, du coup, tu fais ouais. Des choses pour les personnes qui peuvent voir. Et puis, c'est vrai que ça fait écho avec pour les gens qui ne peuvent pas voir par rapport à ton
ouais,
engagement.
Ouais. C'est super. Donc,
c'est cool. Voilà, puis, Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais nous partager ? Je ne sais pas, un lieu, un petit truc, je ne sais pas, ou une expérience que tu as eue
Enfin, des livres, j'ai quelques livres, mais je j'en ai pas qui me viennent en tête. Enfin, j'ai des trucs genre Un chien heureux en ville. Moi, je trouve que... Que tu aies un chien guide ou pas, enfin que quand tu commences à t'engager pour élever un chien, donc qu'il soit guide ou pas, que ce soit un chien que tu récupères à la SPA ou pas, je trouve que c'est hyper important de justement l'éduquer. Et il faut pas dire je suis nulle en éducation si tu regardes pas. Je veux dire, tu as plein de sites internet qui vont t'apprendre à leur apprendre des trucs. Il y a plein de manières. Moi, j'ai appris plein de trucs sur des vidéos YouTube de voir comment ils faisaient et puis de le répéter. Et voilà, je trouve que c'est vraiment hyper important si tu veux que ton chien il soit bien et qu'il soit bien avec toi, de se renseigner un minimum. Mmh. On a vraiment des habitudes par du jeu, de l'attention et de l'éducation. Donc voilà, moi mon truc c'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment l'éducation. C'est récompense à fond la caisse. Hein. Ouais. C'est mon secret qui n'est le secret de personne. En fait, c'est le renforcement positif. On fait tout à la croquette, à la voix, à la caresse.
Une panoplie de... Il faudrait que je prenne une photo une fois. Une panoplie de friandises, puisque tous n'aiment pas les mêmes choses. Et que je pense que j'ai un petit stock... Je sais pas un stock volumineux, mais plus diversifié.
Oui, c'est de la variété.
C'est de la variété. Il y en a pour tous les goûts. La panse d'agneau, pas la panse d'agneau ouais. Séché.
Oui, je vois très bien. Il faut le savoir. C'est Pepe Chien Guide qui m'a dit « Les knackis, ça marche bien. » Alors, je confirme que je coupe en tout petits bouts, que j'ai dans un petit bocal que je transporte avec moi. Ça marche. J'ai des rappels magnifiques. Et elle m'écoute. Et là, ok, bisous, câlin.
Et ça, c'est du travail pour arriver à ça, en tout cas.
Mais ça, bon, après, en plus, t'es juste ultra fière devant les autres. Genre, t'as vu comment elle m'écoute. Enfin, à mon niveau, hein, parce que j'adore, je te disais la dernière fois, j'adore quand les gens nous disent « Mais alors, vous êtes éducateur de chien guide ?» Imagine avec le manteau officiel, avec le logo, tu sais, violet. « Non, je suis bénévole. » Mais voilà, je trouve ça important pour le chien et puis pour toi en tant que maître.
Justement, je vois que le temps file et on en discute. On pourrait discuter des heures de tout ça, mais on va essayer de conclure quand même. Et du coup, j'avais quelques questions de fin. La première, c'est quel est ton plus grand moment d'embarras que tu as eu avec un des élèves chien guide?
Alors, je pense que...
T'en rigoles d'avance, c'est simple.
C'est marrant parce que une des choses qui me vient, c'est la fois où j'avais pris un Ouigo avec Elias. Donc, tu sais qu'il s'arrête à Marne-la-Vallée. On avait fait ex-Marne-la-Vallée. J'avais pas du tout aimé le trajet en Ouigo. C'était pas très bien passé. Et quand on est arrivé sur le quai du Ouigo, Elias, il a posé une pêche, mais un truc, mais ignoble, une espèce de vieille diarrhée verte. Pas super bonne pub pour les chiens guides, mais en plus... Enfin, tu vois, c'est pas une gare vraiment, c'est un truc assez protégé. Donc j'étais là en train de ramasser, mais je crois que c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que j'ai des amis qui sont pas très chiens à la base,
ouais,
qui nous invitent. Donc je leur dis, on a Ondine, donc faut que je vienne avec elle. Et puis ils me disent, ok, ils me disent, elle fait pas pipi. Je lui dis, non, elle est propre, elle fait pas pipi à l'intérieur. Et deux fois comme ça, je suis allée chez eux. Deux fois, je leur dis, mais non, elle fait pas pipi. Et les deux fois, elle pisse sur leur parquet, tu vois. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Alors que chez moi, elle a jamais pissé.
Elle l'a senti, il y avait quelque chose.
Et je leur disais, non, mais je vous jure, parce que tu t'es dit, putain, ils sont trop cool. Ils me disaient, viens, parce qu'en plus, ils ont les enfants. Donc les enfants, c'était trop content de voir le chien. Et deux fois, elle pisse sur le parquet. Je dis, mais c'est pas possible.
Au même endroit et tout.
Je tiens à préciser que c'est rentré dans l'ordre. Et de toute façon, c'était de ma faute, puisque je l'avais laissé boire plein d'eau et je l'avais pas sorti. Et c'est un petit chien. Et un petit chien, ça a une petite vessie. Donc voilà, moi, je pars du. Si mon chien il pisse chez moi ou chez les autres, c'est de ma faute. Donc.
Et pour contrebalancer un peu tout ça, ton plus grand moment de fierté.
Quand Elias est rentré à l'école.
C'est vrai.
C'est vraiment. C'était mon premier. C'était beaucoup de travail. Mais du travail dans le plaisir, tu vois, pas un dur labeur, ma sueur, mon front, tout ça. C'était beaucoup de travail, beaucoup de plaisir. Et en fait, tu sais, comme quand il rentre à l'école, enfin, en tout cas à Paris, le principe, c'est que les trois dernières semaines, tu l'amènes le lundi, tu le récupères le vendredi.
Oui.
Et donc, en fait, tout le monde me disait, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Et alors, j'ai pas du tout pleuré parce que j'étais juste ultra fière d'avoir réussi à emmener mon chien jusqu'à l'école et qu'il allait... Alors bien sûr, je savais pas qu'il allait être formé, mais qu'il allait faire son taf, quoi. Et moi, c'était vraiment, c'est un truc que je garde avec moi tout le temps, quoi. Et donc tous les chiens que j'ai en relais aujourd'hui,
ouais.
C'est pas trop dur. Tu t'attaches, évidemment, tu t'attaches. Moi, tu me laisses avec un chien 10 minutes, je suis attachée, je veux pas te le rendre. Donc évidemment, tu t'attaches, mais je suis hyper contente quand après on arrive à l'école et qu'on montre à l'éducatrice les progrès qu'on a fait, les trucs qu'on a travaillé, et puis que j'ai pas des news de tous, parce que 20 chiens, même moi je crois que je sais plus tous les noms, enfin faut que je regarde ma petite liste. Mais voilà, quand ils disent ça y est, machin a été remis, t'es fière, quoi, tu participes à un truc un peu collectif. Sachant que moi en étant graphiste, tu vois, il y a quand même plein de trucs que je fais qui sont pas super sexy. Enfin, j'avais quand même une période où mon job c'était de faire des bannières en gif animé pour vendre des trucs La Redoute. Ça arrive au mois de novembre que les jours commencent à vraiment beaucoup raccourcir et tu te mets déprimé et tu te dis mais ma vie n'a aucun sens. Qu'est-ce que je fais de faire des bannières en gif animé?
Ouais.
D'abord, j'en fais plus, donc déjà ça va beaucoup mieux, mais. Ouais, je trouve que, enfin, même d'une manière générale, participer à ce truc-là, c'est une forme de fierté. C'est vraiment, c'est mon truc. T'as des gens qui vont faire des maraudes avec la Croix-Rouge. Je suis en admiration parce que moi, je pense que c'est pas ma vitesse. Enfin, c'est pas un truc que j'arriverai vraiment à faire. Mais moi, mon truc, c'est ça. Et donc, c'est comme ça que je participe à l'effort commun. Voilà.
Bien. Sur ces très belles paroles, en tout cas.
Sur mon émotion.
On va aller verser notre petite larme dans le coin de notre œil.
Voilà.
Et puis, bah, écoute, Marie, merci beaucoup pour cet enregistrement qui ça passe toujours
ouais,
aussi vite.
J'ai pas
merci
vu.
En tout cas d'inaugurer aussi bah, la rubrique Rencontre avec, qui du coup avait été imaginée vraiment en rencontre en présentiel, mais bon, le confinement durant, et puis
voilà.
C'était un compromis. Et puis, de toute façon, je tâcherai d'illustrer avec de belles photos. Nos frimousses à chacune d'entre nous.
Psst, toi aussi, tu as envie de lancer ton podcast? C'est en effet ce que m'ont confié certains auditeurs de Futur Chinguide comme toi. Mais par où commencer? Comment passer à l'action à partir de ton idée? Comment enregistrer? Et avec quel matériel? Mais surtout, comment faire pour qu'il soit disponible partout, comme mon podcast? Toutes tes réponses sont dans la formation de mes amies podcasteuses Solène, de Friendship, et Florence, d'Avant J'étais Prof. Pour lancer ton podcast en 30 jours ou plus, il y a 30 leçons vidéo et 30 exercices à appliquer à ton idée. Et pour ne pas le faire en solitaire, leur accompagnement Podcastons Ensemble te permettra d'échanger chaque mois en visio avec d'autres podcasteurs comme toi pour t'entraider et te motiver. Et crois-moi, je ne serais jamais arrivée jusqu'ici sans l'échange avec d'autres. J'ai d'ailleurs négocié un tarif d'amis rien que pour toi. Tu auras 5% d'office sur la formation avec mon code ESTELLE5. Toutes les infos sont disponibles sur formationpodcast.podia.com. J'ai hâte d'écouter ton premier épisode très bientôt.